Europe 1.
13h03, Elisabeth Assayag, La France bouge sur Europe.
Merci Guillaume Buon, on vous retrouve à 14h pour un prochain point sur l'actualité.
Europe 1.
La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France bouge, au service d'un monde qui change. Et vous êtes au bon endroit pour découvrir des talents, de l'audace, des idées, des femmes et des hommes qui accompagnent les changements de notre société. La France bouge, c'est votre rendez-vous des entrepreneurs et de nos pépites françaises au sommaire de votre émission. Aujourd'hui, on va manger des bonbons sur ce marché qui arrive aussi à innover et qui propose des produits sans conservateurs, sans graisse animale, juste des sucreries pour se faire plaisir. Pour en parler, le patron de Carambar & Co. Ce sont des marques que vous connaissez. C'est Lutti, Créma, La Piquichante, Malabar, Suchard ou encore Poulain. Tout est redevenu français et on va en parler jusqu'à 14h. À la une donc les bonbons, les goûters et les cookies. Une start-up est née pendant le confinement. À la base, c'était seulement pour les soignants. Aujourd'hui, c'est une entreprise. Elle s'appelle Cookie Diction et on la découvre d'ici quelques minutes. Ensuite, je vous emmène à Montélimar en Auvergne-Rhône-Alpes avec l'histoire du nougat, le fameux nougat de Montélimar. On en fabrique depuis 1837 et c'est la saga du jour. Rendez-vous à 13h30 pour le récit. Le pitch est trophée Europe 1 de l'avenir avec notre partenaire, la CCI et Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui, on va recevoir Barbamuse. C'est un musée multisensoriel sur la barbe à papa.
Rendez-vous à 13h45. Et puis en fin d'émission, demain, je change de vie. Nils était dans l'immobilier. Aujourd'hui, il a un restaurant de focaccia. Eh bien oui, c'est ça, la France bouge. Bienvenue, vous pouvez nous suivre sur europe1.fr. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Toutes ces entreprises qui innovent, ces initiatives positives, c'est ici, à La France bouge. Et si je vous dis, allez Nathalie Carré, si je vous dis Créma,
Lutti, je connais.
Suchard.
Je connais bien.
Poulain.
Ah oui, je connais aussi.
La Piquichante.
Je connais aussi.
Vichy.
Oui, mais je veux du Carambar.
Mais il y en a. Ah, va en avoir. On sait que tout ça nous donne envie. Ces marques appartiennent à un seul groupe. Comment consomme-t-on aujourd'hui des bonbons en France? On va en parler avec notre invité du jour et nos startups jusqu'à 14h. Bonjour Thierry Gaillard.
Bonjour.
Bienvenue dans La France bouge.
Merci.
Vous êtes le président du groupe Carambar & Co. Ça existe depuis 5 ans, le groupe Carambar & Co. Mais vous avez des marques, on vient de citer, qui ont plus de 150 ans pour certaines d'entre elles, comme Poulain, Carambar, Créma, Vichy, Lutti. Elles étaient un peu mises de côté parce qu'avant, elles appartenaient à un groupe américain. Et c'est ça la magie de notre pays, c'est que Carambar & Co. est venu toutes les récupérer, c'est redevenu français. Ça nous fait du bien. Aujourd'hui, Carambar & Co., c'est 1500 salariés, 5 usines en France. C'est quand même très fort d'avoir récupéré tout ça, Thierry Gaillard.
Ouais, c'était un vrai projet en fait. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans l'agroalimentaire et je voyais ces marques effectivement de confiserie de bonbons qui existent, comme vous l'avez dit, depuis 80 ans et jusqu'à 174 ans pour Poulain, qui était passé sous bannière américaine. C'est pas un mal, mais c'était un groupe américain qui s'en occupait pas trop parce que des marques un petit peu trop franco-françaises. Donc, on a eu l'idée avec quelques investisseurs de racheter ces marques d'abord,
une bonne idée.
De les redynamiser, de les moderniser parce qu'elles avaient un petit peu vieilli. Et puis, on a eu envie de relocaliser la production en France parce que du Carambar, du Poulain ou de la Piquichante fabriquée en Espagne ou en Pologne, c'était pas vraiment...
Vous cochez toutes les cases. C'est vrai. En tout cas, pour la France bouge, vous cochez toutes les cases. Donc, avant de rentrer dans le détail, déjà, globalement, sur le marché du bonbon, ça va comment en ce moment?
Ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Il y a eu un petit coup de mou pendant le confinement, évidemment, parce que
plus
pas d'école, pas de ciné, pas de sortie d'école.
On en a mangé devant Netflix.
Pas d'anniversaire. Alors, un petit peu devant les plateformes, effectivement, numériques, mais pas de sortie d'école, pas d'anniversaire entre amis. Donc, le bonbon un petit peu baissé. Et puis là, à la sortie, les gens retrouvent ces petits plaisirs de la vie quotidienne, pas très cher en plus. Donc, voilà.
Alors, quand vous dites que ça va bien, il y a un chiffre en augmentation par
rapport à... Oui, le marché de la confiserie en France, depuis maintenant 12 mois, est à plus 4, plus 5% de croissance.
Plus 5% ouais. De croissance. Waouh, ouais. Nathalie.
Et du coup, est-ce que le comportement aussi a changé? Parce que vous l'avez dit, il n'y a plus de goûter d'anniversaire, etc. Est-ce que du coup, aujourd'hui, on en achète de façon régulière des bonbons ou ça reste un achat ponctuel pour les anniversaires, les
qui ont repris,
ça y est, tout a repris.
Non, la consommation n'a pas vraiment changé. Ce qui a changé, c'est que maintenant, on les achète aussi sur Internet, puisque pendant le confinement, on a beaucoup acheté
forcément.
En drive et en e-commerce. Donc, ça s'achète aussi sur les sites de e-commerce. D'ailleurs, au mois de novembre dernier, on a lancé notre e-shop, car carambarenco.
Vous n'en aviez pas?
On n'en avait pas jusque-là. C'est une jeune société qui a 5 ans, donc il y a encore beaucoup de choses qu'on n'a pas explorées.
Ça veut dire que sur carambarenco, on retrouve toutes les marques qu'on a citées?
Oui, absolument.
C'est pas luti.fr, carambar.fr.
Carambarenco, on retrouve effectivement toutes les marques du groupe. Oui.
Donc la moitié de votre marché, ce sont les chocolats, l'autre, ce sont les bonbons. Vous dites, depuis un an et demi, depuis 18 mois, c'est bien reparti. Pourtant, moi, je trouve que c'est contre-intuitif parce qu'on est dans cette ère du bien manger. On va manger des bons concombres, des bonnes tomates et tout. Comment vous expliquez que vous affichez cette croissance?
D'abord, comme vous l'avez dit en introduction, il y a du travail qui a été fait pour rendre ces recettes meilleures, plus naturelles, moins chimiques. Nous, depuis,
mais est-ce que ça sert à ça, bonbon? Est-ce qu'on n'a pas envie, est-ce qu'on a envie d'un bonbon végétalien, végétarien?
Un bonbon à la laitue, moi je trouve.
Hein. Moi j'ai envie de sucre, de trucs pas bons, quoi, le truc. Pas régressif permis, en fait.
Tout à fait. Non, mais vous n'avez pas tort. C'est-à-dire que nous, notre axe de travail, on appelle ça le bon et le bon. Le premier bon, c'est le gustatif. C'est-à-dire, ce sont des produits de plaisir, ce sont des produits gourmands. Il faut avant tout que ça soit bon et ludique pour le bonbon et tout simplement bon et gourmand pour le chocolat. Vous avez raison, ça, c'est la première raison d'achat. Et il faut surtout faire attention à ne pas sortir de ça. Et en même temps, le monde a changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs veulent des produits plus naturels. Il y a par exemple 5 ans, quand on a démarré, seulement 30 à 40% de nos bonbons étaient avec des arômes et des colorants naturels. Aujourd'hui, c'est plus de 80%. Donc on est passé, aujourd'hui, si vous prenez la plupart de nos gammes, c'est des colorants naturels à base végétale. Donc on colore avec de la carotte, de la betterave, sans en donner le goût, évidemment, je vous rassure.
Donc plus de colorants artificiels, ça fait partie de vos innovations. Ouais, plus de colorants artificiels, on met de la carotte pour faire du orange et de la betterave pour faire du violet.
Exactement. D'accord. Exactement, on a lancé des gammes de créma bio, donc ça veut dire que tous les ingrédients sont tissus.
Mais pourquoi vers du bio pour le bonbon? Moi, je ne peux pas aller vers un bonbon bio.
Mais si, à partir du moment où il est bon, à partir du moment où il est tendre...
Pourquoi le mettre bio?
Parce que les consommateurs sont demandeurs de produits qui sont de moins en moins...
Mais c'est quoi un bonbon bio?
Et ben, ça veut dire que c'est, par exemple, du sucre qui est cultivé sans pesticides, sans engrais.
Oui, mais on en mange une fois par mois, des bonbons.
Oui, mais je crois que c'est important.
Alors, on mange peut-être plus, beaucoup plus que ça.
On va en manger plus.
Mais par exemple, la problématique de la gélatine animale. Il y a beaucoup de consommateurs qui aujourd'hui
ne veulent plus de gélatine.
Alors sur par exemple une gamme comme Créma, sur la marque Créma,
il y a plus de gélatine de porc.
On a enlevé totalement la gélatine de porc il y a maintenant 18 mois, on l'a remplacée par de la pectine de fruits. Donc ça a demandé une bonne année et demie de recherche et développement parce que ça se fait pas comme ça quand on veut pas changer le goût du Créma régalade qui existe depuis 93 ans, je crois. On ne veut surtout pas changer le goût, mais voilà, sortir la gélatine, c'était pas simple.
Donc comment vous avez fait pour mettre de la gélatine de la pectine de fruits?
On a fait des essais. On a contacté un certain nombre de fournisseurs et puis jusqu'au moment où on a trouvé comment garder le goût de l'éternel créma régalade et sans gélatine.
Donc
voilà.
Pas de conservateur, plus de graisse animale, quoi d'autre dans les innovations?
On a beaucoup travaillé sur l'huile de palme. Donc dans Poulain aujourd'hui, il n'y a plus d'huile de palme. Sur le chocolat, on a lancé une pâte à tartiner sans huile de palme, effectivement. Et puis, les colorants, les arômes naturels. On fait la chasse au plastique, évidemment, hein, puisque les sachets aujourd'hui...
Oui, mais sauf qu'un bonbon, un créma, par exemple, il est dans un petit sachet plastique.
Alors il est dans un sachet plastique.
Il est enrobé dans un petit papier plastique, du plastique
individuel.
Absolument. Alors c'est ce soir là-dessus qu'on travaille, puisqu'il y a maintenant un an, on a lancé une partie de la gamme créma, on a transposé les sachets plastiques en sachets papier recyclables.
Ça, c'est là où vous mettez tous les bonbons.
Là, on met tous les bonbons et on travaille maintenant sur ce qu'on a...
C'est compliqué de conserver un bonbon
dans
du papier.
Vous avez entièrement raison. Ça a demandé une bonne année de travail en recherche et développement parce que le plastique conserve remarquablement bien. C'est pas pour rien que tous les industriels ont utilisé du plastique. Donc, trouver un matériau papier qui conserve bien les bonbons, c'était pas simple. Mais aujourd'hui, une partie de la gamme est maintenant en papier, en sachet papier recyclable. Et puis maintenant, on s'attaque au travail sur la papillote.
C'est la prochaine étape. Parce que ça, c'est compliqué. Parce qu'un bonbon, on aime bien le garder 6 mois.
Absolument.
Ah bah oui. Dans sa poche, ou dans son placard,
ou dans sa voiture, effectivement. Maintenant, c'est plein, vous voyez, c'est, comme vous le disiez, c'est un marché qui bouge et qui bougera encore dans les mois et les années qui viennent. Ouais.
Mais vous avez beaucoup de sites. Comme tu veux, on le refera alors. Du coup, vous avez beaucoup de sites de R&D. J'ai vu que vous en aviez 4. Pourquoi pas tout regrouper entendre, ça fait beaucoup d'innovation quand même à imaginer.
Alors, tout simplement parce que le monde du chocolat et le monde du bonbon,
ça
n'a rien à voir. Donc on a 2 usines de chocolat, on a 3 usines de bonbons et donc on a des équipes de recherche et développement spécialisées dans chacune de ces
catégories. On va continuer à en parler de tout cela avec vous, Thierry Gaillard. Vous êtes le président du groupe carambarenco, plus 5% de croissance sur ce marché de la confiserie. Ça nous donne envie et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1.
Assif, des cookies à base de produits faits maison. Tout est fabriqué en France. Cette start-up est née pendant le confinement. C'est Cookie Diction. Et on la découvre dans un instant. C'est Bam Bam de Camila Cabello et Ed Sheeran sur Europe 1.
Europe 1.
La France bouge. Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans la France bouge qui met en avant les entrepreneurs français, nos pépites françaises, hein, de l'audace, des idées. Et aujourd'hui, on mange des bonbons, hein, Nathalie Carré.
On se fait du bien aujourd'hui.
On se fait du bien ce vendredi. Nous sommes ravis d'être avec vous, Thierry Gaillard. Vous êtes le président du groupe Carambar & Co. Alors, si vous nous rejoignez et que vous ne connaissez pas Carambar & Co.
Qui ne connaît pas
Carambar & Co. Ben, on peut ne pas connaître. Carambar & Co, c'est un groupe qui existe depuis 5 ans. Et dedans, il y a des tas de petites marques qu'on adore. Il y a Suchard, il y a Poulain. Il y a Lutti, il y a Vichy, ça fait un petit peu...
Ouais, ça fait un peu...
Ça fait le pas de côté, Vichy, par rapport à... le pas de côté par rapport à Poulain, Suchard, Créma, La Piquichante.
Ouais, mais c'est une marque qui existe depuis 200 ans, je crois.
Ouais, c'est ça.
Là,
ouais.
Et qu'on essaye là aussi de moderniser, de remettre...
Mais comment on modernise Vichy?
Ben, par exemple, on offre la possibilité aux consommateurs d'acheter des Vichy avec sucre et sans sucre. Et puis on commence à varier un petit peu les goûts également.
Vichy citron par exemple.
Vichy citron, Vichy cassis, Vichy à la pêche.
Ouais. Et quand on a autant de marques, comment vous faites pour vous adresser à tous les consommateurs? Parce que ceux qui mangent du Vichy ne sont pas forcément ceux qui mangent du Suchard ou du Créma.
Oui, c'est vrai. Alors, contrairement à une idée reçue, le marché du bonbon, c'est pas un marché c'est pas une catégorie de produits consommée uniquement par les enfants. Mmh. C'est vraiment de 7 à 77 ans. Vraiment, je crois que la moitié de la consommation, en France du bonbon, ce sont des enfants et des adolescents, et l'autre moitié, ce sont des adultes. Voilà. Et donc, on essaie d'avoir une palette de bonbons et d'offres qui vont de 5, 6, 7 ans à 77 ans, comme on dit.
C'est quoi votre bonbon préféré, vous, en tant que patron de Carambar & Co?
Alors moi, mon bonbon préféré, c'est le Scooby-Doo. Le Lutti Scooby-Doo, vous savez, ces petits fils de bonbons aux fruits avec lesquels on peut non seulement manger, mais avec lesquels on peut jouer. Parce que je trouve que dans le bonbon, il y a aussi un côté un peu ludique.
C'est vrai que c'est agréable. C'est agréable. Vous restez avec nous, Thierry Gaillard, parce qu'on parle de bonbons depuis le début de l'émission. On va aussi parler de. Qui dit bonbon, dit goûter.
Goûter.
Hein, goûter. Pas de goûter sans douceur. Et on va accueillir une start-up de cookies. Ça s'appelle Cookie Diction. Cookie Diction. Je ne sais pas, on dit comment, Charlotte Zetoun. Bonjour.
Bonjour. De base, on disait Cookie Diction. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un petit peu francisé l'histoire.
C'est bien.
Et donc du coup c'est devenu Cookie Diction et je suis très contente que ce soit Cookie Diction.
Charlotte Zetoun, vous avez 29 ans, Cookie Diction ça existe depuis 2 ans, déjà 11 salariés. Donc pour qu'on comprenne bien, ce sont des cookies 100% fait maison, tout est fait maison. D'abord pourquoi les cookies? Vous avez ça à la base?
Je suis une passionnée de cookies. De base, j'avais un petit blog food dans lequel je recensais
sur Insta, sur Instagram,
exactement, dans lequel je recensais toutes mes bonnes adresses et bien évidemment beaucoup de cookies. Le confinement arrive, impossible de l'alimenter avec de nouveaux endroits. Du coup, je me suis mise à cuisiner. J'ai pas mal cuisiné également pour le personnel soignant. Je leur faisais énormément de gâteaux et notamment des cookies. Et le confinement se termine.
Attendez, vous dites ça. Donc pendant le confinement,
on livrait le personnel soignant
dans votre cuisine,
dans la cuisine de chez mes parents.
Ah bah,
un jour sur deux.
D'accord. Et c'était quoi? C'était quel hôpital que vous?
On livrait à peu près tous les hôpitaux. En fait, il y avait un organisme qui était chargé en fait de livrer les hôpitaux. Donc nous, on donnait à cet organisme-là.
D'accord.
Il se chargeait d'en distribuer un petit peu partout. Et c'est vrai qu'on recevait énormément de messages de personnel soignant sur le compte Instagram, du blog.
Ouais, parce qu'à l'époque, c'était que le blog. Vous fabriquiez les cookies et vous mettiez un petit lien,
exactement,
une petite étiquette avec,
exactement,
le nom de votre blog sur Instagram.
Exactement.
Et là,
avec une petite carte à la main, quoi.
Plus de messages.
Plus de messages.
Ouais.
Ils sont excellents, on n'a jamais goûté ça, ils sont incroyables, ils sont ci, ils sont ça. Et donc, fin du confinement arrive, je me suis dit, je vais les vendre.
À la base, pour que nos éditeurs comprennent bien, vous êtes dans la joaillerie.
Ah oui, moi
vous travaillez dans les bijoux, vous faites quoi? Vous êtes directrice?
Je suis directrice de création.
Directrice de création, les bijoux, donc rien à voir avec la cuisine.
Rien à voir, j'ai 9 ans d'ancienneté dans la boîte.
Donc tout va bien, c'est le confinement, vous êtes au top, vous faites des cookies pour passer le temps et pour faire,
exactement,
du bien à nos soignants qui étaient au front. Et là, vous avez tellement de messages positifs, vous dites, je peux pas m'arrêter là,
je me suis dit, je vais les vendre, mais je garde malgré tout mon travail.
Oula, compliqué.
Donc compliqué, réveil à 5h du matin, on dormait à 1h du matin, c'était cookie diction le matin, cookie diction le soir, parce que toute
est-ce
la
que
journée.
Est-ce que vous continuez à en livrer aux soignants?
On livre aux soignants, mais on avait lancé la livraison, on avait lancé le e-shop.
Au particulier. D'accord.
Donc pluie de commandes, les réseaux sociaux qui en parlent, les influenceurs qui en parlent, la presse qui en parle. Donc ça a fait une énorme boule de neige.
Tout ça grâce aux réseaux sociaux. Il n'y a pas du mauvais. Hein.
Oui.
Franchement.
Ah, moi je les remercie parce que ce n'est que grâce à eux.
Que grâce à Instagram. Donc là vous vous dites, va falloir que je fasse un choix parce que je suis directrice de création dans la joaillerie depuis 9 ans en CDI, tout va bien. Et le soir, j'ai les mains dans la farine.
Donc le choix a été fait au bout d'un an et demi, puisque j'ai continué pendant un an et demi à faire les deux.
Ah mais c'est bien, à 25 ans, c'est
possible.
Ouais,
c'est ça. À 25 ans, on ne réfléchit pas si on se réveille à 5h du matin ou si on dort à 1h du matin. Du coup, je l'ai fait pendant un an et demi et le jour où j'ai ouvert ma première boutique...
Ah mais quand même, vous êtes allée hyper loin.
Ah, je suis allée hyper loin, ouais.
Vous êtes allée jusqu'à ouvrir votre première boutique.
J'ai ouvert une première
boutique. Tout en continuant à cuisiner dans la cuisine de vos parents.
Enfin oui, tout est passé. En fait, jusqu'à ce que j'ouvre la première boutique, c'était dans la cuisine de chez mes parents.
Ils sont associés, j'espère, vos parents, pour les remercier.
Ah, bah, c'est vrai, je les remercie tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est une histoire familiale. Tout le monde travaille chez Cookie Diction. Mais oui, pendant un an et demi, on a fait ça. Donc, on a transformé la maison. De base, on a acheté en grande surface et après, on a acheté vraiment chez les producteurs. Et donc, tout s'est passé dans la cuisine de chez mes parents jusqu'au jour où j'ai ouvert la boutique. Donc, c'était le 5 octobre.
2021. Et vous avez démissionné.
J'ai démissionné le 5 octobre.
C'est incroyable. C'est une belle histoire. Hein. Et je tiens à signaler que Charlotte a à peine 29 ans.
Et du coup, est-ce que vous avez des demandes pour aller vers des muffins, vers des brownies?
On a énormément de demandes. Bon, déjà, on ouvre une deuxième boutique là, la semaine prochaine ou dans deux semaines.
Donc toujours à Paris.
Toujours
à Paris. Il va falloir sortir de Paris un peu quand même.
C'est prévu au programme. Oui. Déjà, on livre dans toute la France.
Très bien. Ils ont quoi de si spécial, vos cookies? Parce que là, on parle de cookies, mais il y a quoi dedans?
Alors, ils sont déjà, la texture de nos cookies est particulière, puisqu'ils sont croustillants à l'extérieur et extrêmement moelleux à l'intérieur. Mmh. Et grâce à une technique de cuisson qui a été vraiment maîtrisée, ils gardent ce moelleux pendant un certain temps. Donc ça, c'est déjà incroyable. En plus de ça, on ne met que des produits 100% naturels à l'intérieur et on essaye de récupérer la quintessence de chaque produit.
Par exemple,
le beurre AOP Charente-Poitou. Mmh. Qui est le beurre de la Viette, qui est le meilleur beurre du monde. On utilise le chocolat Valrhona, qui est une référence chez les pâtissiers. On utilise la vanille de Madagascar. On utilise le sel de Guérande. Et voilà, il y a les noisettes du Piémont, les noix du Périgord. Donc il y a vraiment, on essaye de sélectionner avec choix tous nos cookies.
D'accord, donc ça c'est pour la qualité. Vous vous adaptez aussi aux restrictions alimentaires?
Totalement.
Je crois,
donc ça c'est récent. On a développé une gamme qu'on a appelée Not Guilty Cookies. Donc pour toutes les personnes qui ont des intolérances ou des interdits. Donc les sans gluten, bien évidemment, qu'on a mis du temps à développer. Car on était vraiment...
Vous faites quoi, avec de la farine de pois chiche?
Non, on fait ça avec de la farine de riz, également un mélange de poudre de noisettes et d'amandes. Mmh. Donc on tenait vraiment à garder notre texture, qui est vraiment la signature de nos cookies. Du coup, on a mis 6 mois à le développer. Et on a développé également une gamme sans lactose. Car on s'est rendu compte qu'il y avait un gros marché sur ce secteur-là. Mmh. Et voilà, la gamme Not Guilty ne va pas s'arrêter là.
Qu'en pense notre grand patron du jour, hein, Thierry Gaillard, président du groupe Carambar & Co. Ça vous parle, hein?
Ah ouais, alors moi d'abord je suis très admiratif de l'aventure entrepreneuriale, parce qu'il faut oser quand même, hein. Il faut oser faire ça en parallèle de son job et puis ensuite à un moment donné lâcher son poste et puis se lancer dans l'aventure. Donc très admiratif, bravo. Ça me donne envie de les goûter d'abord. Et puis ça me donnerait presque envie de vous dire peut-être qu'un jour on pourrait lancer un cookies au caramel.
Mais pourquoi pas?
Ouais, alors ça,
des inclusions de caramel.
Les cookies en grande surface sont jamais bons. Enfin, ils sont sablés. Quoi, ils sont...
Oui,
c'est ça, ils sont
très sablés. Ouais,
du coup, je suis obligée de les faire à la maison. Mais je vais acheter les vôtres maintenant.
Non, avec plaisir.
Je vais me reposer.
Non, mais peut-être s'il y a peut-être quelque chose à faire ensemble, je sais pas, un cookie diction,
bah,
by caramba.
On prend rendez-vous.
Moi, je suis une grande fan de bonbons, même si dans mes cookies, je mets du 100% naturel. Je mange
Mais il y a des crèmes bio maintenant. Tout est bon. Merci à vous, Charlotte Zetoun.
Merci à vous.
Cookie diction, des cookies 100% fait maison. Vous souhaite bonne chance. C'est une très belle aventure qui démarre. Vous restez avec nous sur Europe 1. Thierry Gaillard, vous êtes le président du groupe Carambar & Co. Allez, direction Montélimar, là-bas, on y fabrique du nougat. Du nougat depuis 1837, c'est français. Et on en parle dans la saga du jour. À tout de suite.
Europe 1. La France bouge.
Elisabeth Assayag.
Évidemment qu'elle bouge cette France et on le voit chaque jour sur Europe 1 entre 13h et 14h autour d'un grand témoin du jour. Aujourd'hui, on mange des bonbons à la France Bouge, hein, n'est-ce pas Nathalie Carré ? Des bonbons qui nous font envie avec des marques comme la Piquichante, Malabar, Lutti, Créma, Pasti Vichy, Suchard ou encore Poulain. Toutes ces jolies marques françaises avec lesquelles on a tous un petit bout d'histoire.
On a tous abîmé nos palettes.
Voilà, et grâce à... Et on a fait la richesse de nos dentistes. Nous sommes ravis d'être avec vous Thierry Gaillard, vous êtes le président du groupe Carambar & Co, parce que toutes ces petites marques appartiennent à ce groupe qui a à peine 5 ans et vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission, hein, vous affichez une belle croissance, hein, plus 5% de croissance sur le marché de la confiserie. Quel est le produit qui se vend le plus au sein de votre groupe ?
Alors ce sont, d'abord c'est le Lutti Scooby-Doo, c'est le Bubbly's également, ces petites bouteilles roses et bleues qui piquent la langue.
Ah oui, mes enfants adorent.
Voilà, exactement, bah, vous avez tout résumé, c'est les enfants adorent.
Oui, les enfants adorent.
Et puis en fait c'est un marché sur lequel il y a autant les produits de toujours, hein, les Harlequins, les Carambars, les Crémas Régalades qui existent depuis 80-90 ans, ça fonctionne toujours bien. Et puis en même temps, c'est un marché d'innovation où les gens sont avides de nouveautés. Et la nouveauté, c'est des goûts, c'est des textures, c'est des formes. Il y a un petit côté ludique aussi. Mmh. On vient de lancer des Lutti Pokémon qui marchent formidablement bien avec des petits bonbons en forme de Pikachu. Enfin,
ouais, c'est la totale. C'est la totale. Est-ce que tout ça marche bien ? Est-ce que c'est aussi parce que vous maîtrisez toute la ligne de production ? Maintenant que vous avez relocalisé, vous avez 5 usines en France. Elles sont situées où, vos usines ?
Alors, on a 2 usines de chocolat qui sont à Blois pour le chocolat Poulain, à Strasbourg pour les Rochers Sucrés. Et puis une usine à Bondu à côté de Lille.
Oui, justement, cette usine, vous sortez de longs mois, vous avez vécu une crise sociale. Maintenant, ça va mieux et c'est l'une des plus grosses usines de France.
Oui, c'est une des plus grosses usines de bonbons qui fait un peu plus de 20 000 tonnes de bonbons chaque année et qui, j'espère, un jour en fera 30 ou 35 000.
Et c'est aussi en partie pour cela que ça marche, parce que toute la production est maîtrisée, toute la chaîne industrielle est maîtrisée.
Ben, c'est vrai que ça nous laisse quand même une totale liberté, c'est-à-dire qu'on maîtrise notre recherche et développement pour mettre au point ces nouveaux bonbons dont je parlais tout à l'heure. On fabrique en France désormais. On s'approvisionne également, enfin on tient à s'approvisionner en matières premières et en emballage en France ou en Europe très proche. Aujourd'hui, 99% des ingrédients qui rentrent dans notre chocolat ou dans notre bonbon viennent de France pour 65% et pour le reste de Belgique, de Hollande, donc très proche de nous. Et pour nous, le côté local, achat local était très important.
Mais c'est quoi la recette d'un bonbon en fait ? C'est 99% de sucre, non ?
C'est du sucre, des arômes effectivement de fruits, un petit peu de colorant et comme je l'ai dit, de plus en plus naturel. Du sirop de glucose, qui est fait à partir de,
donc voilà, ça veut de maïs. C'est dans un autre langage.
Ouais, c'est ça.
Voilà,
sucre.
Mais c'est ça, oui.
Tout à fait. Et fructose.
Ouais.
Tout ce qui finit par ose.
Ose, en fait.
vous maîtrisez votre chaîne de production. Là, en ce moment, on le voit, hein, il y a une hausse du prix des matières premières. Les prix dans les supermarchés, dans les produits alimentaires ont augmenté. Comment vous répercutez cette hausse ? Parce que forcément, les bonbons sont aussi touchés.
Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, non, c'est, je pense que beaucoup d'entreprises dans beaucoup de secteurs vivent une période
assez... C'est très compliqué en ce moment.
Assez compliqué. Nous, on est... vous parlez souvent de groupe, hein, comme vous dites, Carambar & Co, mais il faut savoir qu'on est 100 fois... plus petit que nos concurrents directs. Hein. On n'est pas du tout une grosse multinationale, mais plutôt une entreprise de taille intermédiaire. Donc c'est difficile de répercuter
ou de ne pas
répercuter. On le fait partiellement. Voilà. Je pense qu'il
c'est-à-dire
faut que
vous choisissez des produits.
Je pense que d'une façon générale, on essaie de faire des économies sur un certain nombre de choses en interne pour ne pas avoir à répercuter la totalité des surcoûts sur le prix des bonbons, parce que le bonbon doit rester un produit accessible, un produit de tous les jours. Voilà, donc il faut trouver le juste milieu entre la santé économique de l'entreprise et puis le consommateur.
Donc comment vous faites alors ? Ça a augmenté ou pas ?
Ça a augmenté un peu, oui, de quelques pourcents. Il faut savoir que sur un bonbon, on parle de quelques centimes. Hein, c'est-à-dire qu'un Carambar va augmenter de 10 centimes.
Donc c'est à force d'augmenter de 10-15 centimes qu'à chaque coup, on va consommer avec un panier plus important.
On est très, très attentif à ça, parce que ça reste un produit du quotidien. Vous savez, un enfant qui sort de l'école et qui va acheter un Malabar ou un Carambar, on parle de 15 à 20 centimes. Voilà, il ne faut pas que ça reste beaucoup plus cher.
Oui, c'est l'argent de poche qui vise
les
enfants souvent, donc il faut qu'ils puissent continuer. Ouais.
Chaque jour dans La France Bouge, Thierry Gaillard, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise, d'une association ou d'un produit qui traverse les années, qui sont toujours là. Alors là, on se régale avec vous depuis le début de l'émission, puisque vous représenter des marques que nous connaissons tous, hein, qui sont toujours là. Là, dans cette émission consacrée à nos douceurs, à nos confiseries, on va aller vers du côté de Montélimar pour découvrir le plus vieux nougatier de Montélimar. Il existe depuis 1837 et c'est la saga du jour.
Europe 1. La France bouge. La saga.
Bonjour Charlotte Barrican.
Bonjour Elisabeth.
Alors on va continuer avec vous de se faire plaisir avec l'histoire d'une confiserie. C'est le nougat, c'est la spécialité de la ville de Montélimar. Vous connaissez Nathalie ?
J'adore.
C'est vrai, hein, c'est
le
bon.
Le nougat, je crois que c'est ma friandise préférée.
Alors il y a une entreprise, elle est française, qui en a fait sa spécialité depuis 1837, Charlotte.
Et oui Elisabeth, c'est la maison Arnaud Soubéran. Elle naît d'un mariage, celui de monsieur Arnaud et de madame Soubéran. Tous les deux se lancent dans le monde de la confiserie avec du nougat, grande spécialité de Montélimar, qui remonte au temps des Romains. Ils la ramènent depuis Marseille, longe le Rhône, avant d'arriver à Montélimar. Et ce nougat romain n'est pas tout à fait celui qu'on connaît aujourd'hui. C'était du miel avec des fruits secs. Mais la recette que l'on connaît maintenant, on le doit à un homme, comme nous le raconte Didier Honoré, nougatier à la tête de l'entreprise Arnaud Soubéran.
Le nougat de Montélimar est connu comme tel depuis le XVIe siècle, où un célèbre agronome Olivier de Serres a planté des amandiers dans la région. Et c'est ensuite donc avec l'amandier dans la région et un ingénieux pâtissier de Montélimar qui a ensuite ajouté du blanc d'œuf monté en neige. C'est ce qui a donné le nougat de Montélimar avec cette texture aérée et cette couleur blanche.
Alors Charlotte, la maison Arnaud Soubéran prospère, ça marche très très bien, son nougat se vend partout. Mais au milieu du XXe siècle, et c'est le cas dans pas mal d'entreprises, hein, c'est un peu la catastrophe et l'entreprise risque de couler.
Oui Elisabeth, puisque l'autoroute arrive, les chemins de fer sont modernisés, alors les nougatiers ont des difficultés tout simplement puisque traditionnellement, la grande majorité du nougat se vend à Montélimar, qui est le seul point de passage entre le nord et le sud. Et là, il y a beaucoup moins de monde, l'entreprise va mettre la clé sous la porte, mais elle est rachetée par une famille, les Brottes, ils mènent tout en œuvre pour perpétuer le savoir-faire de la maison. Et oui, parce que le nougat, ce n'est pas si simple à faire.
Pour un nougat tendre, il faut compter environ 2h30 à 3h, en fonction de la météo, selon les saisons, selon qu'il fasse plus ou moins froid, selon l'humidité du temps, on ne va pas cuire les mêmes températures et les mêmes durées. Un nougat dur, lui, va prendre une heure de plus pour être fabriqué. Ce sont des cuissons au bain-marie, où on va respecter les matières premières et où on va pouvoir, si on sent que c'est utile, prendre le temps qu'il faut pour réussir la cuite. Ce qui compte chez nous, c'est qu'un nougat soit bon quand il sort du chaudron. Si à la dégustation, lors de la cuisson du nougat, on estime que pour la qualité de la texture et le goût du nougat, il faut mettre un peu plus de temps, on va le mettre.
Alors la maison Arnaud Soubéran, c'est aussi un musée du nougat à Montélimar, un magasin d'usine et un réseau de revendeurs partout en France.
Alors il y a des tas de nougatiers, mais celui de la maison Arnaud Soubéran, il a quelque chose de bien à lui. Hein.
Exactement Elisabeth, puisque tout est local, des ingrédients à la fabrication, ils ont leur propre miel et 17 hectares d'amandiers à Montélimar, entretenus par la trentaine de collaborateurs de l'entreprise. Ils ont tous appris sur le tas, c'est la philosophie d'Arnaud Soubéran, n'est pas nougatier qui veut.
L'expérience est essentielle et c'est pour ça qu'il faut minimum 2 ans pour commencer à être régulier et autonome sur les fabrications de nougat. Le nougat de Montélimar fait partie du patrimoine local et même national, c'est-à-dire que c'est vraiment une spécialité qui est reconnue. Mais la formation, même si lorsqu'on est confiseur, on vous apprend à faire le nougat, elle se fait surtout en interne dans les entreprises. Et à ce titre, chez nous par exemple, chez Arnaud Soubéran, quand bien même la personne que nous formons est déjà pâtissier à l'origine ou confiseur, il devient autonome et performant au bout de 2 ans.
Alors les Français adorent le nougat, Elisabeth, et ça se ressent dans les chiffres. La marque Arnaud Soubéran s'exporte très peu. Cela représente à peine 15% du chiffre d'affaires. Le reste est réalisé en France.
Merci Charlotte Barrican pour cette saga du plus vieux nougatier à Montélimar, Arnaud Soubéran. Un nougatier qui existe depuis 1837. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré de la CCI et Thierry Gaillard, notre grand patron du jour, président du groupe Carambar & Co. Il y a des nougats au sein de Carambar & Co.
On a un seul produit à base de nougat qui est le Cara Nougat.
C'est quoi ça?
C'est un carambar au caramel qui enrobe une petite barre de nougat. C'est à la fois dur et tendre. Moi, je vous le conseille.
C'est merveilleux. Vos salariés doivent être ravis de travailler chez vous.
Ouais, c'est un peu comme un rêve de gosse quand même de faire ce métier, je vous confirme. Ouais.
Comment, justement, vous avez besoin de main-d'œuvre comme dans tous les secteurs en ce moment, parce qu'il faut, il faut les former pour fabriquer.
Oui, c'est un vrai métier. Le métier de confiseur ou de chocolatier sont des vrais métiers. Donc, on embauche beaucoup de jeunes, une centaine par an chez Carambar & Co, qu'on forme effectivement au métier. Mais il y a une pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui, dans cette industrie comme dans d'autres.
Oui, l'industrie, tout est en tension de toutes les façons.
C'est un petit peu compliqué.
Vous recherchez dans quel type de métier?
Des opérateurs de production, des maîtres confiseurs, des Voilà, des gens, des cuiseurs, par exemple. C'est vraiment un métier... vous savez, vous visiteriez une usine de bonbons, vous apercevez que c'est très proche de l'artisanat, simplement sur des grosses quantités, mais ça reste très artisanal et très manuel.
Et donc, un métier manuel, un métier artisanal, un métier de passion aussi.
Un métier où tout sent bon toute la journée.
Tout sent bon toute la journée, effectivement. Est-ce que ça signifie que vous avez mis en place une espèce d'école interne pour les former? Comment vous faites?
Pas une école interne exactement, mais on demande aux anciens, effectivement, qui ont 15 ans,
20
ans,
de
transmettre, effectivement. Ça prend un an et demi à deux ans avant de former quelqu'un à ces métiers. Oui.
Là, on parlait tout à l'heure des emballages. Est-ce que vous avez pensé peut-être à aller vers du vrac, voilà, avec vos propres magasins? On vous trouve dans la grande distribution. Mais est-ce qu'on peut envisager, quand on a autant de marques réunies, pourquoi est-ce que vous n'y aurez pas des magasins maintenant Carambar, ouais, Anco?
C'est une bonne idée. Alors, on n'est pas allé jusqu'à créer nos propres magasins. Pour l'instant, mais en tout cas, en association avec des grandes enseignes, on a testé en magasin des meubles vrac. On a l'avantage d'avoir beaucoup de produits empapillotés, hein, comme
oui,
le carambar,
du coup,
comme
le vrac,
créma,
c'est pas gênant, effectivement.
Et donc le vrac est plus facile. Donc oui, on se tourne activement vers cette direction. Oui.
Vous restez avec nous, Thierry Gaillard, président du groupe Carambar & Co. Vous allez maintenant à coacher et accompagner une entrepreneur qui se lance. Vous êtes prêts?
Allez,
partons. On continue. À suivre, le musée de la Barba Papa. Ça vous fait rêver? Eh bien, c'est le moment du pitch des trophées Europe 1 de l'avenir. Ça s'appelle Barbamuse, avec évidemment les bons conseils de Nathalie Carré. À tout de suite. On se retrouve juste après Étienne Dao dans La France Bouge. Vous restez avec nous.
Un matin comme tous les autres, un nouveau pari. Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Clopin clopant sous la pluie, jouer le rôle de sa vie. Puis un soir le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus essentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui.
C'était Étienne Dao, le premier jour du reste de ta vie. C'était en 2001 sur Europe 1.
Europe 1,
la France bouge. Elisabeth Assayag.
Et c'est parti pour les trophées européens de l'avenir. La France bouge chaque jour, elle, où ils exposent leurs projets d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Il est exigeant, attentif, bienveillant. C'est un expert aussi. Aujourd'hui, on parle de bonbons avec Thierry Gaillard, le président du groupe Carambar & Co. Hein, si vous nous rejoignez, Carambar & Co, ce sont des marques que vous connaissez, comme Lutti, Créma, La Piquichante, Malabar, les Pastis Vichy, Suchard ou encore Poulain. Hein. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré, la Chambre de Commerce et d'Industrie. Et un projet qui a été lancé il y a deux ans. Bonjour Ilana Marouani.
Bonjour.
Bienvenue dans La France Bouge. Vous avez 23 ans et vous vous lancez dans un concept qui va faire rêver les petits et les grands. Ça s'appelle le Barbamuse. C'est le musée de la Barba Papa, tout simplement. C'est une expérience multisensorielle pour raviver nos souvenirs. Ça a été lancé et ça s'est arrêté, faute de moyens. C'est aussi pour ça que vous êtes dans La France Bouge, pour avoir des conseils, pour pouvoir pérenniser cette idée. Mais tout d'abord, votre pitch, Barbamuse, c'est quoi? C'est parti, vous avez une minute.
Alors, Barbamuse, c'est quoi? C'est un créateur d'expériences éphémères autour de la Barba Papa. C'est une boîte autofinancée qui a été créée en 2021. Le but, c'est de permettre à n'importe qui, petit comme grand, de rêver et de s'évader dans un monde complètement utopique et enfantin. Et je pense que c'est ça qu'on avait besoin de retrouver post-Covid. Maintenant, comment ça se passe de manière un peu plus pratique? Les gens, ils peuvent prendre leur ticket soit en ligne, soit sur place. Et à la suite de ça, ils suivent un parcours immersif où ils passent de salle en salle. C'est comme une expo, mais version 2.0 avec beaucoup plus d'interactivité, que ça soit des odeurs, des sons, des textures différentes. Tout cela, bien évidemment, en savourant de la barbe à papa. C'est très instagrammable. Il y a une dimension esthétique qui est très forte. Et ce qui pousse les gens à poster des photos, des vidéos et à les relayer sur leurs réseaux sociaux. Et c'est ça, je pense, qui est une des clés de leur succès. Pour l'instant, il y a eu deux saisons, une en septembre et une en février. Et là, on est en train de travailler sur la suite et comment avancer.
Et ben voilà, merci Ilana Marouani pour votre... Voilà, c'est étonnant, Nathalie, l'idée d'un petit musée comme Pic du Jour.
C'est assez
surtout un musée de la barbe à papa, il fallait y penser. Mais pourquoi vous faites ça, Ilana? C'est parce que vous êtes passionnée de barbe à papa? C'est quoi l'idée?
Non, mais ça me fait vraiment vibrer, en fait, tout ce côté imaginaire qui, je pense, a été vraiment mis de côté pendant le Covid. Mmh. Et j'ai envie aujourd'hui de ramener cette dimension-là, de réouvrir l'univers des possibles, en fait, et de pouvoir s'évader, voyager et rêver.
Mais ce serait le début d'une grande aventure entrepreneuriale autour de, dans les histoires comme ça, autour de, dans les musées, dans les expos?
C'est ce que j'espère.
Ou dans les bonbons, plutôt?
Alors, en fait, justement, pour moi, c'est le mix qui fait la force, en fait. C'est-à-dire que moi, là, j'essayais de retourner en enfance parce que pour moi, c'était l'époque où on était le plus insouciante et le plus heureux. Et le symbole de l'enfance, pour moi, c'est la barbe à papa.
La barbe à papa.
Voilà.
Nathalie Carré, quelles sont les forces et les faiblesses et surtout comment l'aider, Ilana, pour Barbamuse?
Bon, on va essayer. Alors déjà, effectivement, c'est un lieu de régression, histoire de retomber en enfance pendant quelques heures. Les Français adorent ça. Et en plus... ça nous donne une activité originale à partager avec nos enfants, puisqu'on a un peu dépassé l'âge, pour certains d'entre nous en tout cas, de l'enfance. On peut rester le temps qu'on veut, j'ai vu sur votre site, et on peut déguster donc des bonbons en se promenant de votre espace. Donc voilà, le prix n'est pas un sujet, c'est accessible pour tous. Et c'est vraiment un lieu idéal pour fêter un anniversaire ou un enterrement de vie de jeune fille. Alors, pas de point amélioré, mais essayons d'avoir quelques idées pour aller plus loin, puisque les deux essais ont été concluants. Alors déjà, votre slogan, vous dites le musée multisensoriel de la barbe à papa. Est-ce que c'est vraiment un musée, finalement? Un slogan, ça incarne l'ADN de la marque. Dans un musée, on découvre, on apprend des choses. Là, on a plutôt l'impression que c'est une salle de jeu et de détente. Mais il manque un truc qui permet de saisir le type d'expérience et donc les émotions que votre lieu va susciter. Est-ce qu'on rentre dans un lieu magique de type Alice au Pays des Merveilles, ou un lieu où on nous renvoie tous les symboles de notre enfance, avec Candy, Goldorak, la fête foraine et la barbe à papa, le feu de camp et les chamallows? Est-ce que c'est un lieu pour découvrir et goûter les barbes à papa du monde entier? Ouais, il manque un petit truc. Peut-être que vous pourriez faire de ce lieu un endroit où les parents peuvent partager leur enfance qu'ils ont eue ou auraient voulu avoir, où les jeunes femmes qui vont se marier diront au revoir à leur vie de jeune fille, où les enfants pourraient manger des murs de bonbons pour fêter leur anniversaire, où on apprendrait à fabriquer des chamallows et autres bonbons, où on pourrait faire un feu de camp géant en chantant des chansons et en mangeant des chamallows chauds, où on pourrait regarder un dessin animé en piochant dans un énorme pot de fraises Tagada ou... autre de Caron Marenco.
De Lutti.
En fait, un endroit où tout est permis. L'idée étant d'avoir des espaces différents où chacun pourrait dire à son enfant ou ses amis « Oh, regarde, je suis jamais allée camper, viens, on s'installe. » Ou « Oh, ça me rappelle le jour où j'invitais des copines, on a regardé la télé tout l'après-midi en mangeant des bonbons et j'ai été malade. » Et c'est le prétexte du partage et des fous rires. Évidemment, tout ça a un coût. Donc, au-delà des marques, ils peuvent faire du placement de produits, comme on dit. Vous pourriez faire appel aux dons pour les décors, parce qu'on a tous un vieux truc de notre enfance dans un grenier qu'on pourrait vous donner. Évidemment, des ateliers payants, par exemple, et il y aurait d'autres idées. L'idée est vraiment d'avoir un lieu permanent, un lieu magique et doux pour partager, vivre ou revivre l'enfance de ses rêves, ses souvenirs oubliés et voir sa vie en rose bonbon pour l'éternité.
Oh là là, c'est poétique en plus, Nathalie, aujourd'hui, ouais. Le conseil. Vous en pensez quoi, Ilana? Comment vous pourriez avancer dans ces directions?
Alors, je suis complètement d'accord avec vous déjà sur le terme musée. C'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai changé à la saison 2. Parce que.
Saison 2. comme une série.
Vraiment, c'est comme une série. Mais parce que c'est vrai qu'à Paris, c'est très institutionnel en fait quand on dit musée. Oui. Et comme moi, je me suis inspirée des États-Unis, de l'Asie, etc., on appelait ça des musées Instagrammables. Mais du coup, ça, c'est une super bonne...
Mais je trouve que vous êtes trop... toujours, vous parlez d'Instagram. Mais en fait, l'idée, c'est pas Instagram. L'idée, c'est de créer une expérience de sortie en famille pour se replonger dans l'univers de l'enfance. Mais Instagram, c'est bien, mais c'est limité, en vrai.
Sur le gâteau, Instagram.
Ouais, c'est oui. Le plus.
C'est ça. Alors, le but de base et la cible première, c'est les jeunes. Et la cible secondaire, c'est les familles. Et du coup, comment aussi on peut attirer les jeunes? C'est en rendant cet espace très esthétique, ce qui fait qu'en fait, ils peuvent le partager ensuite sur leurs réseaux sociaux.
Oui, mais c'est en plus.
Oui, je comprends.
C'est en plus.
Oui, quand on peut avoir 40 ans et savoir Instagram. Mais,
tout à fait.
Bon, moi, je ne sais pas. Mais,
même plus. Même plus. Thierry Gaillard, président du groupe Caron Barenco, quel regard portez-vous sur ce projet?
J'aime vraiment beaucoup l'idée. Ce que j'aime bien, c'est l'association entre un produit de toujours, la barbe à papa, vous parliez de fêtes foraines, de cirque, de fêtes d'enfants, et en même temps, le monde de l'Internet, du virtuel, des réseaux sociaux. Moi, pour vous encourager, je voulais partager une expérience. Il y a 2 ans, sur la marque Caron Bar, vous savez, qui est réputée aussi pour ses blagues,
on avait lancé la blague 2.0 avec le réseau Snapchat. Et on avait simplement, sur chacun des bonbons, il y avait un petit code, un QR code. Et en flashant, on pouvait avoir un petit personnage qui racontait une blague en réalité augmentée. Et cette association de la blague, qui a maintenant plus de 60 ans, du carambar, qui est un produit toujours, et en même temps, voilà, de cette technologie nouvelle,
ça a formidablement marché. C'est de modernité et de tradition.
Très supporter, oui.
Justement, qui écrit les blagues carambar?
Oui, j'avais posé la question, effectivement.
Parce que,
tous les jours.
Alors d'abord, aujourd'hui, on a à peu près 5000 blagues carambar qui circulent. Oui, bah, c'est déjà pas mal quand même. C'est déjà pas mal. En fait, au départ, la plupart des blagues, les pourvoyeurs, les créateurs de blagues étaient les enfants. On avait des concours dans les écoles et pour chaque blague sélectionnée, on leur offrait leur poids en carambar.
C'est génial,
il faut continuer ça.
Ça a fonctionné comme ça. Aujourd'hui encore, je reçois à peu près 3 lettres par semaine.
Mais comment on fait pour vous écrire? Moi, j'en connais plein autour de moi qui sont créateurs de blagues.
Non, c'est spectaculaire de voir les enfants et les moins grands aussi qui spontanément proposent des blagues.
Donc les enfants et sinon, il y a des auteurs?
Et sinon, il y a des auteurs,
c'est
effectivement, de blagues, il y a des humoristes.
Métier auteur de blagues carambar.
Et
vous renouvelez ou ce sont mêmes qu'à 40 ans?
Non, chaque année, évidemment, on se renouvelle et on intègre de nouvelles blagues dans le lot.
Et donc, ça veut dire que vous faites des réunions, comité, aujourd'hui, on choisit les blagues carambar pour les prochains...
Je vais postuler.
Vous avez un métier sympa, franchement. Merci, Ilana Morroni. Comment on peut vous aider là? Bon, on a parlé de vous. Vous levez des fonds, vous faites comment?
C'est exactement ça que j'ai de préparer aujourd'hui, c'est de pouvoir lever des fonds pour permettre de rendre cette expérience possible et surtout augmenter en fait tout ce que je peux faire, parce que là en fait la première saison tout était fait à la main entre guillemets.
Oui, pouvoir s'améliorer dans les techniques. En tout
Exactement.
Cas, c'est ce qu'on vous souhaite, Ilana Morroni, fondatrice de Barbamuse, le premier musée multisensoriel autour du thème de la Barba Papa. Merci à vous. Et puis, chers auditeurs, si vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise, il n'y a qu'une seule adresse.
Eh ben, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et promis juré, Charlotte Barécan et moi, on lira toutes vos candidatures.
Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. À suivre demain, je change de vie. Nils était dans l'immobilier. Aujourd'hui, il a ouvert son restaurant de focaccia. Et oui, c'est ça, la France bouge. À tout de suite.
Europe 1.
La France bouge. Elisabeth Assayag.
Et c'est déjà la dernière partie de votre émission. Ça passe toujours trop
toujours
vite. Hein,
Nathalie. Surtout quand on parle bonbons.
Surtout quand on parle bonbons. Nous sommes toujours avec Thierry Gaillard. Vous êtes le président du groupe Carambar & Co. Et à La France Bouge, on aime découvrir les parcours de vie professionnels, des parcours de vie qui nous inspirent, qui nous étonnent aussi, comme le vôtre, Nils Edelman. Bonjour.
Bonjour Elisabeth, merci de m'accueillir.
Merci à vous. Vous avez 29 ans et... vous étiez dans l'immobilier, aujourd'hui vous êtes chef cuisinier. Alors on va un peu retracer votre parcours pour qu'on puisse comprendre. Vous avez fait des belles études, hein. Vous étiez à Montréal, vous avez fait HEC Montréal, vous y êtes resté 4 ans. Ensuite vous avez fait un master dans la finance et quand vous êtes rentré à Paris en 2015, vous êtes fait embaucher dans une filière de promotion immobilière au sein du groupe Bouygues. Donc un parcours qui allait être tout tracé, sans faute.
C'est exactement ça, vous avez été très bien briefé. C'était un parcours qui était tracé. Moi, j'étais vraiment convaincu d'être passionné d'immobilier. Et il s'avère qu'au bout de 2 ans au groupe Bouygues, je me rends compte que les projets qui ont une durée de vie de entre 5 et 25 ans ne me permettent pas de me projeter, de me réaliser.
Mmh. Donc vous rentrez dans une forme de routine, finalement.
Carrément. Et un jour, par hasard, au détour d'une conférence, je tombe sur un flyer Ferrandi Paris, école de cuisine française. Et je vois âge maximal d'inscription pour le parcours bachelor, 25 ans.
Cette année-là, j'ai 25 ans. Donc, âge maximal pour pouvoir s'inscrire dans cette formation Ferrandi, 25 ans. Et vous avez 25 ans. Donc, vous vous dites, c'est maintenant ou jamais.
Et là, je me dis, c'est maintenant ou jamais.
D'accord.
T'en as toujours rêvé au fond de toi. Ton père avait un petit peu quand t'étais gamin. T'adorais y passer du temps. Donc, passe les sélections et si jamais tu passes, tu te poseras des questions.
Eh ben, c'est bien, c'est pragmatique,
c'est
Nathalie.
Pragmatique,
hein. Il a raison. Donc, vous le dites à personne, c'est ça qui nous a plu aussi. Vous aviez une barbe, vous la rasez, mais vous dites à personne pourquoi. Hein. Même, ça va jusque dans les moindres détails.
Je connais mes parents, comme tous les parents, ils veulent jouer la sûreté. Donc, à l'époque, je me dis, je leur dis rien et je les mettrai devant le fait accompli comme un bon fils que je suis. Et du coup, je leur dis que j'ai perdu un pari et du coup, je me suis rasé la barbe.
Donc, vous vous rasez en fait, la barbe et vous passez le concours.
Oui, et je passe le concours Ferrandi. C'est une journée de sélection à proprement parler. Et ça se passe hyper bien. Donc, je suis reçu après. C'est une des administratrices Ferrandi qui m'appelle pour me le dire, qui depuis est devenue ma meilleure amie. Et voilà, et je suis pris et je démissionne et j'entame en septembre suivant 3 ans dans le Bachelor Ferrandi avec les meilleurs ouvriers de France à la Dure.
Bah c'est ça, c'est-à-dire que vous étiez dans votre petit confort dans l'immobilier et là, vous venez de le dire le mot, à la dure. Hein. Vous donnez votre démission, vous passez 3000 euros net par mois à 0 euros et vous êtes qu'avec des jeunes de 18 ans, vous avez plus de 25 ans, donc on vous surnomme en plus papy.
C'est exactement ça. C'est en fait une grosse leçon d'humilité concrètement parce que on passe d'un vrai confort de vie, petite smart, costard, un peu beau gosse, les rendez-vous pro. Je fais le TP, je me fais engueuler comme tout le monde quand je fais une connerie. Et fin du TP de cuisine, on lave le sol. C'est la grosse leçon d'humilité, quoi.
C'est formidable, Nathalie. Hein.
Et puis je connais l'école Ferrandi, ça plaisante pas.
Mais
c'est une école CCI, oui, ça plaisante pas du tout. Il y a eu beaucoup de courage.
Beaucoup de courage, beaucoup d'humilité. Vous avez réussi, hein, et bravo Niels, parce qu'aujourd'hui vous avez ouvert votre premier restaurant, un restaurant de focaccia. Ça allait quand même vachement vite.
Ouais, merci beaucoup, c'est gentil. C'est allé vachement vite. En même temps, j'ai fini, j'avais 28 piges. Il y a le Covid qui est arrivé et j'étais déjà associé avec mon petit frère qui lui-même est reconverti d'architecture aujourd'hui à la restauration.
Ouais.
Et on allait chercher mon meilleur ami qui est ancien expert comptable, donc on n'est que des reconvertis.
C'est vachement bien.
L'équipe de reconvertis.
Un restaurant de reconvertis.
C'est la cuisine des reconvertis.
La cuisine des reconvertis. Vous avez des regrets, Niels, par rapport à tout ce chemin parcouru, ou si c'était à refaire, vous referiez exactement la même chose?
Zéro regret. Franchement, aujourd'hui, en fait, je fais le meilleur métier du monde. C'est-à-dire que je me lève tous les matins pour faire à manger et faire plaisir aux gens.
Vous
êtes payé ce que nous fait gratuitement.
On peut se targuer de faire mieux que ça.
On ne peut pas faire mieux que ça. Quel conseil pourriez-vous donner à une personne, à nos auditeurs, nos auditrices qui vous écoutent et qui ont aussi envie de changer de vie professionnelle et qui n'osent pas?
Simplement se poser les bonnes questions, en fait. Qu'est-ce qui, encore une fois, va vous faire vous lever, vous faire sauter du lit tous les matins? Qu'est-ce qui va vous faire kiffer, quoi? C'est tout aussi simple que ça.
Aussi simple que ça, et pourtant, il faut franchir le pas.
Ça peut prendre du temps à trouver.
Et vous l'avez fait, Niels Edelman. Merci à vous d'avoir témoigné dans La France Bouge, dans Demain, je change de vie. Je me tourne vers vous, Thierry Gaillard, pour le mot de la fin. Président du groupe Caran-Barenco, des reconversions comme ça, vous en avez, vous, au sein du groupe qui arrive, qui dit « Moi, j'ai toujours rêvé de bosser dans le bonbon ».
C'est vrai que dans les jeunes générations, dans les générations d'aujourd'hui, ils osent beaucoup plus. Je suis admiratif, effectivement, de gamins, enfin, en tout cas, pardon, mais de jeunes qui ont 25 ans, qui ont en tout cas moins de 30 ans et qui peuvent changer déjà de métier 2 ou 3 fois dans leur vie, passer d'une aventure dans une ONG à venir bosser chez nous, chez Carambar, puis repartir après. Moi, j'adore ce type de parcours, des gens qui font des vrais choix de vie par conviction, par passion. Moi, je sais que sans avoir véritablement changé de vie, quand j'ai basculé dans l'aventure Carambar & Co, c'était vraiment histoire de conviction, de passion.
C'est ce que vous aviez au fond de vous depuis longtemps.
Oui, vraiment, cet attachement à des marques locales, françaises, de toujours, qui étaient en train de péricliter, qu'on avait vraiment envie de relancer, de redresser, de moderniser. Oui.
Et vous l'avez fait, vous les avez relancés. Merci à vous Thierry Gaillard d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge. Président du groupe Carambar & Co, Nathalie, c'est déjà la fin de votre émission. Nathalie Carré, on se retrouve demain.
À demain.
Tout de suite le flash, suivi de Christophe Ondelat.
Europe 1, Elisabeth Assayag.